foutage.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h.
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit.
Mais libéré.
Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Et vivre sans contrainte.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce numéro de juillet de Presse Libérée, l'émission sur les médias libres, indépendants, alternatifs, pas pareils, etc., etc. Alors, pour cette émission de juillet, on va revenir sur les rencontres d'économiques qui se sont tenues à Aix-en-Provence au début du mois. Et on va le faire avec une journée de lancement de ces rencontres d'économiques qui se sont tenues le 9 juin dernier à Aix-en-Provence, consacrée aux médias, notamment à propos de leur modèle économique et du statut de journaliste. Ça, ce sera pour une seconde partie de l'émission. Tout d'abord, nous allons à la rencontre de Bertrand Dolé qui nous raconte 50 ans de dessin de presse.
Bah, j'étais étudiant salarié parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et donc ma famille était sur la région parisienne. Moi, j'étais descendu à Toulouse. Ça a explosé dès le 13 mai 68. Où on s'est retrouvé, il n'y avait plus de transport, plus d'essence, plus rien. Et puis dans les facs, ça a commencé à bouger.
Comment ça vous a nourri pour votre dessin, en tout cas, ces événements-là, dans la période du début des années 70?
J'ai eu à faire mon service militaire, que j'avais repoussé puisque j'étais sur Citerre. Et j'avoue que c'était une période où l'antimilitarisme était quand même assez débuts et assez virulent, et je dois dire que le passage au service militaire a bien contribué, pas à une radicalisation, mais disons qu'à une prise de conscience et une envie de se mettre à dessiner, ce qui fait que j'ai commencé véritablement à dessiner en 75, en quittant le boulot que j'avais, qui était un boulot de rédacteur de contentieux, spécialiste juridique, qui avait aucun intérêt. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans le dessin. Donc j'avais constitué un book et j'ai commencé à aller voir Le Monde, Le Canard Enchaîné, Libération. C'est Libération qui m'a publié en janvier 75, avec lesquels j'ai eu beaucoup de chance et j'ai publié pendant plusieurs mois avec Libé. Après, c'était avec la CFDT, avec Le Canard, où j'ai travaillé pendant plus de 5 ans. Et puis avec d'autres organes, parce que n'étant pas salarié, c'est toujours très difficile, ben, je pense que c'est la même chose aujourd'hui, d'arriver à composer un revenu suffisant pour nourrir ses enfants.
Et donc c'est de la caricature de presse que vous faisiez. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que ça signifie pour vous.
C'est-à-dire que j'avais commencé mes premiers dessins de presse à la fin de Pompidou. Ouais. Notamment contre le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et puis, avec Libération, c'était la période Giscard, où là, ça a été vraiment une très très belle période, parce qu'on avait un archétype d'énarque se prenant pour Louis XV, et avec pas mal de défauts assez visibles, et qui était complètement en dehors des préoccupations des gens. Donc j'ai commencé à Libération, ensuite j'ai pu travailler dans le journal Rouge, pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il arrête. C'était un rouge quotidien, donc c'était merveilleux de pouvoir travailler tous les jours avec une liberté totale de choix de sujets et de dessins. Je me rappelle avoir dessiné Giscard avec une guillotine, enfin guillotiné carrément. Il y avait assez de virulence et une très très grande liberté. Donc ça a été une belle période de pouvoir travailler dans un quotidien, travailler sur tous les sujets, y compris des sujets de société, la lutte des femmes, le début de l'écologie. Ce journal n'était pas un spécialiste de l'écologie, bien entendu, puisque ce n'était pas sa priorité politique, mais ça a été l'émergence, dans les années 70, des principales luttes qui ont forgé ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit 68. C'est né dans les années 70, quand même. Et puis après, j'ai travaillé pour les syndicats CFDT, j'ai travaillé pour le Parti Socialiste, et puis j'ai continué à travailler pour la gauche, et je me suis plus tourné vers des publications. J'ai travaillé pour Le Monde, et pour l'International Herald Tribune. Et là, c'était assez étonnant. C'était les caricatures que je laissais un stock à l'entrée. Je n'ai jamais pu rencontrer personne dans ce journal. J'ai laissé une enveloppe avec des caricatures et je recevais des chèques tous les mois. Il y avait des caricatures qui étaient publiées, qui étaient bien publiées, et c'était très bien payé.
Comment le contact s'est fait alors ?
Bah, par téléphone, en anglais, par téléphone. Ah. J'ai appelé le rédacteur en chef, et puis ça a commencé à payer. Et dans les années 80, donc, il y a eu l'arrivée de Mitterrand, avec évidemment pas mal d'espoir, et puis le principe de réalité du fait que la gauche au pouvoir, ben c'est le pouvoir donné à la gauche. C'est d'abord le pouvoir avec toutes ses contraintes et toutes ses limites. Dans la première partie de cette période avec Mauroy, donc c'était la gauche où tout était possible et on avait plein d'argent. Il y avait énormément d'argent dans les publications de gauche. Et puis quand il y a eu le tournant de la rigueur avec Jacques Delors qui est arrivé, 84-85, et Fabius... Là, ça n'a plus du tout été la même chanson. Et d'ailleurs, ça s'est terminé par l'arrivée de Chirac au pouvoir. Et cette arrivée de Chirac, je l'ai vécue à la télé. On avait monté avec un copain, François Forcadell, qui vit toujours et qui anime des blogs sur le dessin. On avait monté une association qui s'appelait « Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ». Et on avait fait une énorme exposition, enfin qui a eu beaucoup de succès, à la Maison de la Radio. Et il s'est trouvé que la télé était venue couvrir cet événement. Ils ont demandé à un dessinateur de faire un dessin en direct. Bon, j'en ai fait un. Et puis, j'ai été recontacté une semaine après pour venir travailler pour la télé. Ils avaient demandé plusieurs dessinateurs et c'est avec Cabu et Kerleroux qu'on a assuré les dessins du week-end de janvier à juillet 86.
Donc, si je vous suis bien, jusqu'en 1986... Finalement, la liberté, elle était toujours là, même si économiquement, ça commençait à se serrer un petit peu.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Et est-ce que, par ailleurs, pour la suite, eh bien, finalement, il n'y a pas que les raisons économiques qu'on restreint la liberté dans les dessins que vous aviez ?
On l'a vu tout de suite, puisque j'étais à TF1, les derniers temps de Fabius, et l'arrivée de Chirac. Je l'ai vu arriver, il était passé au studio. C'était une période où TF1 a été privatisé. Et donc était en plein dans l'œil du cyclone pour tout ce qui est le respect d'un code de bonne conduite au niveau des dessins. Et avec Cabu a fait un dessin anticlérical et moi j'ai fait un dessin anti-socialiste à ce moment-là parce qu'ils avaient fait des grosses bêtises sur le carrefour du développement. J'avais fait un Jospin qui était là et qui disait « Moi, je suis pas là pour faire la circulation au carrefour du développement ». Et là, dès le lendemain, on a été virés par Hervé Bourges, Cabu, Kerleroux et moi, parce que c'était précisément les limites du genre de la liberté éditoriale. Ce qui était intéressant, c'est qu'on participait au comité de rédaction, on avait 6 ou 7 sujets à voir. Je revenais voir le rédacteur en chef technique et je lui proposais 1 ou 2 idées sur les principaux sujets. Et une fois que le sujet a été arrêté, il fallait aller trouver le présentateur. J'ai travaillé avec 2 présentateurs pour pour lui faire son lancement. Donc à la limite, il fallait trouver le dessin, l'idée du dessin et en même temps le service après-vente pour faire que le présentateur, en l'occurrence Bruno Mazur, avec qui j'ai pas mal travaillé, lance ça sans le désamorcer ou sans le vider de son sens, ce qui n'était pas facile.
Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous continuez de dessiner. Où est-ce qu'on peut voir vos dessins ?
Il y a plusieurs sites sur lesquels je publie régulièrement des dessins. Il y a le site de l'association France Cartoons. C'est des pages Facebook, pardon, c'est pas des sites. Mm-hmm. Ensuite, il y a le site du salon de Saint-Just-le-Martel qui s'appelle Salon, et qui est une commune d'un côté de la banlieue de Limoges, dans laquelle, depuis 1986, s'organise tous les ans le salon du dessin d'humour. Et j'étais en 86 et j'y suis allé encore les 2 dernières années. Et autrement, comme autre site, il y a le site de l'Estac, mais qui a fermé maintenant, Et puis, bon, des sites...
Du Festival de l'Estac.
Ils ont fermé le site n'est plus ouvert à tous. Mmh. Et autrement, des sites Caricaturama, Shaodan, des sites de caricature. Dès qu'il y a de la caricature, je suis intéressé.
Et là, on pourrait dire que c'est pour votre propre plaisir. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a autant engagé à faire de la caricature ?
C'est un peu une vision décalée de la réalité. Bon, je suis quelqu'un qui aime bien les choses réelles. Si j'ai fait des études de droit, c'était parce que j'aimais bien savoir dans quel film on jouait et quels étaient les moyens de s'en sortir. Mais j'ai toujours essayé de voir le côté drôle, décalé, asymétrique... Et puis, avec du recul, ce qui était de ridicule et de déplacé ou d'inacceptable dans la réalité qui nous était proposée. Et donc, c'est aussi une manière de s'exprimer. Mmh. Donc, voilà, j'avais envie de m'exprimer. J'ai toujours autant envie de m'exprimer aujourd'hui.
Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire du dessin de presse, aussi pour garder cet esprit de liberté, hein, bien sûr?
Participer au maximum de rencontres avec les dessinateurs. Il se trouve que malheureusement, on n'en a pas parlé, mais avec la mort de Cabu et des autres collègues de Charlie Hebdo.
On peut en parler hein, si vous le souhaitez.
Il y en avait deux qui étaient vraiment des amis chers. Il y a eu d'abord, après Charlie, il y a eu la peur d'organisateurs de salons de se trouver confronté à des problèmes de sécurité publique pour les participants. Et puis, après le Bataclan et puis novembre 2015, il y a eu quand même une volonté de réagir, un petit peu comme ce colonel de gendarmerie l'autre fois dans le Sud-Est, c'est-à-dire ne pas laisser la parole et l'hégémonie des gros titres au terrorisme ou à ceux qui veulent terroriser justement les autres. Donc, conseil, dessiner énormément, parce que c'est un vrai travail, rencontrer le maximum de dessinateurs, et puis essayer de se faire publier, mais ce qui est le plus difficile, puisque même un organe comme le RAVI éprouve les pires difficultés aujourd'hui. La vie de dessinateur de presse, aujourd'hui, même si elle a davantage de notoriété, elle est très misérable. Il y a peut-être entre 10 et 15 dessinateurs de presse en France qui vivent de leur métier. Tous les autres ont d'autres métiers. Donc il faut un bon moral. Bon moral, mais le dessin, c'est passionnant et ça fait réagir et c'est un outil de communication et on voit toujours le regard qui s'allume quand vous avez le dessin qui a tapé juste.
Après cette expérience de 50 ans de dessin quand même, qu'est-ce que vous en retirez d'un point de vue personnel? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est une ouverture d'esprit? Je ne sais pas, ou tout à fait autre chose?
C'est des rencontres, bien sûr. C'est des rencontres. Bon, je parlais de Cabu, c'est quelqu'un que j'étais allé voir... alors que je débutais, et puis il m'a reçu chez lui, il m'a invité à dessiner un droit de réponse. J'avais rencontré Kerr Leroux qui m'a invité aussi. J'ai repris l'activité de dessin au moment de la retraite. Je me suis inscrit à une association de caricaturistes internationales qui est basée aux États-Unis. Ça m'a permis de participer à des conventions et de rencontrer des dessinateurs américains qui sont beaucoup plus nombreux à dessiner comme ce qu'on voit à Montmartre, à Paris. C'est-à-dire que c'est un vrai métier, le métier de caricaturiste dans les parcs à thème ou dans n'importe quelle manifestation. C'est reconnu et il y a des tarifs. Il y a énormément de collègues américains qui vivent de ça et qui vivent bien. Et puis la différence avec beaucoup de dessinateurs, au moins il y a quelques années en France, c'est qu'aux États-Unis, vous partagez vos connaissances, surtout avec les nouvelles technologies, enfin le travail avec tablettes graphiques, iPad, etc., où on se partage les applications, on se partage les techniques. Il y a beaucoup d'échanges et ça, c'est énorme. C'est un métier solitaire, mais qui nécessite d'avoir beaucoup d'échanges et de contacts.
Vous venez d'écouter le dessinateur de presse et caricaturiste Bertrand Dollet. Merci à lui d'avoir répondu à notre invitation. On poursuit cette émission Presse Libérée comme chaque mois avec la chronique de Sébastien Boistel, du mensuel Leur Avis et président de Médias Citoyens PACA.
Pardon de casser l'ambiance, mais avec les médias pas pareils, malgré le passage à 80 km/h sur les routes des vacances, quand on aborde l'été, on se demande, comme les plus optimistes dans les maisons de retraite, si ce n'est pas le dernier. Passer l'hiver, la bonne affaire, c'est à portée du premier venu pourvu qu'il sache faire pleurer dans les chaumières. Mais l'été, c'est passablement meurtrier. Son vieux journal, on l'abandonne comme un chien au bord de l'autoroute. Sa vieille radio, on l'oublie au profit de ses robinets d'eau tiède qui distillent information routière et musique d'ascenseur. Sa télé, on la veut aussi putassière qu'un match de football ou une soirée mousse au fond d'un camping. Une fois de plus, on exagère. C'est peut-être parce que cette année, on n'aura pas voix au chapitre pour les discussions informelles au ministère de la Culture relatives au fonds de soutien à l'information sociale de proximité. Vous savez, les sous-aides à la presse qui ont été mises en place par la France, patrie des droits de l'homme, après Charlie Hebdo. Bon, comme dans la plupart des accidents, les torts sont partagés, mais quand même, ça fait un choc. C'est comme d'être jugé par contumace alors qu'on a tout fait pour être à l'heure au tribunal. Mais comme on se l'est dit, Saint-Jean à peine le cri de guerre du sportif qui vient de perdre, on fera mieux la prochaine fois, s'il y en a une. Mais arrêtons de broyer du noir, car à l'orée de l'été, il y a eu un petit miracle. Non, il ne nous est pas apparu, au fond d'une grotte arlésienne, Sainte Françoise Nyssen, la sainte patronne de ceux qui coupent des arbres en espérant que cela change, sinon le sens de l'histoire, du moins la gueule de leur compte en banque. Imaginez l'ex-patronne d'Actes Sud, désormais intermittente du spectacle Rue de Valois, pour annoncer que tout le pognon qu'elle allait réussir à siphonner du côté de l'audiovisuel public allait alimenter le tiers secteur médiatique. On a beau être dans la dèche, on ne pille ni les troncs d'église et on ne fait pas les poches des morts. On était à Aix-en-Provence, les faubourgs Rupin de Marseille. Un samedi après-midi dans un parc, à l'heure où l'honnête homme fait la sieste ou va tremper ses enfants dans l'eau dans l'espoir, sinon de les noyer, du moins de les divertir. On était à la journée de lancement des rencontres économiques, la réponse déconnante et économiquement hétérodoxe au cercle des économistes, une sorte de mini Davos des incompétents en chef, de la main invisible et de l'ultralibéralisme. Et là, sans l'once de la moindre vedette, et là on ne parle même pas de la formidable chroniqueuse aubagnaise de France Inter Nicole F, qui nous a fait l'honneur de sa présence, avec juste comme tête de gondole pour le débat d'après un ancien éditorialiste de RMC, Thomas Guénolé, désormais faisant des ménages à la France Insoumise, on a réussi à réunir pas loin d'une centaine de personnes et plus d'une dizaine de médias pas pareils pour plancher sur une question qu'on pourrait croire sortie d'un quiz de l'été ou d'une conférence en poulet de sa sainteté Daniel Mermet. Une autre information est possible, mais c'est pas facile. Comme on en avait marre des grands messes et qu'on n'avait pas envie de faire dans la conférence où les sachants déversent leur science aux autres, on a joué la carte du débat mouvant. Vous prenez, parce que c'était Roland-Garros, une balle de tennis, vous coupez le terrain en deux, parce que c'est des journalistes, c'est très binaire, et d'un côté, vous mettez les optimistes, de l'autre, les pessimistes, et vous les encouragez à se mettre à coups d'argumentaire sur la gueule. Ce fut, somme toute, assez réjouissant. Ne serait-ce le nombre non négligeable de militants qui vont jusqu'à lire l'ours du monde diplomatique pour être sûr de ne pas en perdre une miette, et qui, en guise de micelle, ont troqué le JT de 20h pour « le média ». Parfois, on se dit que certains ont lâché la Bible juste parce que c'est écrit trop petit et trop compliqué. Ça a duré toute une après-midi et on a prolongé la discussion autour d'un verre de rouge pendant que l'autre, là, Thomas Guénolé, il faisait rien qu'à dire du mal des médias mainstream. Et comme dans nos médias, on n'a pas attendu les économistes orthodoxes pour s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on n'aimerait pas que d'autres nous infligent, on a joué la carte de l'économie, de la mutualisation, à la recherche de ce chaînon manquant qui lirait l'utile à l'agréable puisqu'on a profité de ce débat pour enregistrer l'émission Presse Libérée. Alors profitez, c'est l'été, et rendez-vous à la rentrée, si on a encore du blé.
Elle est si fragile, c'est une presse libérée, tu sais, c'est pas si facile.
C'est parti pour l'émission Presse Libérée. Nous sommes en direct de Aix-en-Provence, au Parc Saint-Mitre, à l'occasion des rencontres d'économiques pour le lancement. Ces rencontres qui se dérouleront début juillet, avec un super programme pour parler non pas de décroissance, mais d'économie alternative. Ici, sur le plateau, nous avons Iles Agoug.
C'est moi.
Journaliste à La Nuit Magazine. Mmh. À ma droite, Jean-Marie Digne. Tu es un ancien de la Marseillaise et tu vas lancer un nouveau média qui sera avec les anciens de la Marseillaise. Nous Bonjour. Avons aussi Justin de Gonzague, qui est journaliste aussi à 1538 Réseau Méditerranée.
Documentariste,
pardon. Et d'autres journalistes viendront sur le plateau, on va discuter de tout ça tous ensemble. Pour commencer, je vous propose qu'on refasse un point sur ce média de la Marseillaise, sur ce nouveau média par les anciens. Peut-être que tu peux commencer par faire un petit point sur les difficultés économiques et structurelles de la Marseillaise qui vous ont poussé à lancer ce nouveau média.
Ça me donne pas trop envie d'y revenir puisqu'on vient d'en sortir. La Marseillaise, c'est un journal qui a 74 ans d'existence, hein, qui est situé clairement à gauche. Comme je viens de le dire, on vient d'en sortir et on garde à la fois des souvenirs qui sont des bons souvenirs et des souvenirs qui sont un peu plus sombres. Du côté des bons souvenirs, on peut dire que le travail qui est réalisé par la Marseillaise se distingue généralement du travail qui est réalisé par la PQR, hein, que ce soit dans les territoires de l'Occitanie ou de PACA. C'est un travail qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, et notamment qui est très spécialisé dans tout ce qui concerne les mouvements sociaux. Après, du côté des moins bons souvenirs, c'est la façon dont on a pu vivre cette expérience à l'intérieur, avec une forme de décalage entre ce qu'on pouvait écrire et ce qu'on vivait à l'intérieur. Le fait de ne pas pouvoir être, par exemple, payé à la convention collective quand un journal la défend tous les jours et qu'il a 74 ans d'existence, ça pose question. On est parti de ce journal avec une idée qu'on avait une partie de cet héritage entre nos mains. Il s'agissait de la transformer. Et notamment sur le fond, la question de la transformation, elle se situe au niveau politique, puisque c'est un journal qui est géré, tout le monde le sait, par le Parti communiste. Donc c'est un journal qui est géré par un appareil politique. Et là où il peut y avoir une confusion, c'est le travail qui pouvait être fait entre un travail pour un électeur et un travail pour un lecteur. Nous, ce qu'on voulait, et ce qu'on veut, c'est mettre en place un journal en faisant une transition de cette expérience politique de manière à la transformer positivement dans le monde d'aujourd'hui. Et on a choisi de le faire à travers l'économie sociale et solidaire en créant une SIC, une société coopérative qui associe les citoyens sur notre territoire qui sont en capacité de proposer des alternatives concrètes, régionales, au système néolibéral global. Et pour ça, on est en démarche pour aller les voir et les associer à notre projet pour travailler ensemble à la constitution du titre.
Alors, ce serait quoi le périmètre de ce nouveau journal ?
Alors, on est sur un périmètre large et c'est un projet ambitieux puisqu'il concerne deux régions, l'Occitanie et PACA, avec une dimension urbaine, c'est-à-dire de Toulouse à Marseille, en passant par Montpellier, Avignon, Aix, mais aussi la prise en compte de tout ce qui se passe dans l'arrière-pays. Parce que c'est un vrai problème politique ce qui se passe dans l'arrière-pays, c'est-à-dire le monde rural est complètement délaissé par les médias. Et ce qui se passe dans le monde rural est quelque chose de tout à fait fondamental en ce moment. J'étais la semaine dernière à Mazamé, une rencontre dans le cadre d'un débat public sur la transition énergétique. Il y avait dans le palais des congrès de Mazamé 120 associations avec des citoyens du monde rural qui étaient des experts par rapport à cette problématique énergétique. Et en face, on avait le conseil régional Occitanie qui a mis en place un schéma pour cette transition énergétique, et on se rendait compte du décalage, c'est-à-dire que les citoyens étaient plus experts que les politiques. Le dialogue entre les politiques et les citoyens reste à construire, et ça fait partie de nos objectifs de le favoriser. Parce qu'en définitive, sur cette question par exemple énergétique, la question c'est une vraie question politique. Et on ne veut pas jeter l'eau avec le bébé du bain, c'est-à-dire de dire que tous les politiques sont pourris. La façon dont nous comptons aborder le politique, c'est justement ce que ne font pas la plupart des médias, c'est-à-dire non pas la façon dont on accède au pouvoir, mais la responsabilité qu'on a en tant qu'élu territorial lorsqu'on y est. Et notre idée, c'est d'associer à ce média des citoyens qui sont conscients de cela et de concerter les politiques aussi afin de trouver des alternatives. Parce qu'en définitive, le problème, ce n'est pas de la guerre d'un politique contre un autre politique. En définitive, c'est la guerre contre les multinationales qui sont en train d'installer des éoliennes dans les territoires ruraux sans aucun contrôle. Là, ils sont en train, par exemple, en Aveyron, de mettre en place un transfo qui va collecter 1000 éoliennes, tout ça pour le faire transiter et le vendre en Europe. Enfin, quand on est urbain, on a le sentiment, parfois, quand on va à la campagne, de dire, bon, bah, c'est bien les éoliennes, il faut une économie renouvelable, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On ne produit pas de l'énergie. Là, c'est un problème précis, mais on ne produit pas de l'énergie renouvelable pour les gens du territoire. On est dans la production toujours plus pour vendre ailleurs, avec des nuisances terribles pour les habitants du territoire. Et ce qui se passe aussi, c'est que le retrait de tous les services publics et de toutes les instances de contrôle fait en sorte que les multinationales imposent aux habitants du monde rural cette machine de production. Et ce qui arrive dans le monde rural, ça va nous arriver dans le monde urbain. Donc on est concerné par ça aussi.
Alors faire en sorte de pouvoir donner la parole aux citoyens, aux gens concernés, aux gens qui sont, on va dire, des experts, qui ont les connaissances. C'est aussi une des missions de 1538 Réseau Méditerranée, qui est un journal sur Internet qui fête ses 1 an, si je ne dis pas de bêtises.
C'est alors,
Justin, est-ce que tu pourrais nous développer un peu le projet de ce journal ?
Le concept, il est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'on était à l'étranger, en fait. Et à l'étranger, la puissance des médias mainstream, elle est extrêmement présente, parce qu'il n'y a plus de filtre, parce qu'on n'est pas dans notre pays, quoi. Donc du coup, on est dans l'obligation, en quelque sorte, de les servir. Pour pouvoir manger, notre ambition, en allant au Liban, c'était de nourrir la population française d'informations qu'on récoltait sur le terrain, parce que c'était une information extrêmement complexe. Et quand on rentre dans la sphère de la restitution, forcément, on est en connexion avec les médias mainstream. Et eux, leur grille de lecture, c'est de nous demander de nourrir leurs propos, non pas d'apporter des nuances sur ce qu'ils comprennent du terrain, quoi.
Donc ça veut dire que concrètement, ils vous font une commande, et si ce que vous proposez ne répond pas à la commande, ils ne vous payent pas, en fait.
C'est soit ils nous payent pas, soit ils nous mettent de côté pour choisir quelqu'un qui répond à cette attente, quoi.
Et donc vous avez choisi de faire votre propre média.
Exactement.
Pour pouvoir faire les attentes que vous vouliez.
Et surtout, ce qui me frappe, c'est que c'est pas simplement le corps journalistique qui est frappé par ce recul informationnel, en fait. Par exemple, si on prend le corps des chercheurs, qui est un corps qui est très proche d'une autre, sauf que, encore une fois, c'est une question de temporalité, ils travaillent sur un temps beaucoup plus long. Mais moi, ce qui m'a intéressé justement dans le travail de 1538 et ce qu'on voulait proposer, c'était dans un premier temps la possibilité de mettre ensemble une pluridisciplinarité de l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'impact des médias sociaux, du network dans notre vie quotidienne, elle est prégnante, quoi. Pour payer le gaz, pour payer l'électricité, pour inscrire les enfants à l'école, et ainsi de suite. Et ça fait partie aussi de l'éducation du système pour qu'on épouse la rapidité qu'ils veulent mettre en place. Ce système-là, qui nous contraint à aller vite, donc à faire une information un peu galvaudée, favorise le délitement de la recherche, le délitement de l'activité journalistique. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce constat-là, c'est de prendre la balle au bon et de se dire, il y a un espace du coup. Et cet espace-là, c'est la possibilité, pour la première fois, de travailler ensemble. Parce que dans le passé, on était dans un aspect concurrentiel à l'intérieur du corps journalistique, parce que c'est ce que veut le système. Il veut qu'on soit concurrentiel entre nous pour nous tuer bien comme il faut. Et les chercheurs, c'est exactement la même chose. Et les débats qu'on a chez les chercheurs, on a exactement le même débat chez les journalistes. Et on a le même débat aussi au niveau de la formation des jeunes doctorants. Sur 100 doctorants, il y en a 5 qui deviennent chercheurs, quoi. Donc, dans les écoles de journalisme, je sais pas, mais par expérience, il n'y en a pas beaucoup, soi-disant, qui sont des journalistes, reconnus, en quelque sorte, qui sont à RTL, à France Info, et ainsi de suite. Le reste, on se retrouve ici, quoi. C'est vrai, on se retrouve ici à batailler. RTL, France Info, et ainsi de suite, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de mettre en place un corpus idéologique, un corpus, un système alternatif avec toutes ces personnes qui sont percutées par ce système nauséeux qui est l'information à outrance, l'information McDonald's, quoi, en quelque sorte. Et si on est en capacité de créer des plateformes où le lecteur, il peut voir l'avis du chercheur, l'avis du journaliste, l'avis du caricaturiste, et ainsi de suite, il a des portes d'entrée différentes, ce qui fait dans sa vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on a des portes d'entrée différentes, des portes culturelles, des portes associatives, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Et maintenant, on passe à une phase, je dirais, on ne voudrait pas être un média simplement hors sol, c'est-à-dire simplement sur le net. On va essayer de mettre en place des live journalistes. Je ne sais pas si vous connaissez le système. C'est Par exemple, on a des journalistes qui ont fait une enquête en Irak ou une autre en Grèce et ainsi de suite. Eh bien, en un temps donné, on leur dit, ben, vous venez à Marseille et vous racontez votre enquête, les difficultés. Et en même temps, il y a une interaction avec la population et avec le citoyen. C'est extrêmement politique parce qu'un citoyen, pour voter, il faut qu'il soit informé. S'il est désinformé, eh ben, arrive ce qui arrive, quoi. Pour en revenir à 1538, notre ambition, c'est justement de nous former en formant aussi les citoyens. En formant les citoyens à une responsabilisation de ce que c'est l'activité médiatique et de ce que c'est être journaliste ou de ce que c'est être un chercheur. C'est vrai que ça prend du temps, mais ce temps-là, il est important. Il est important de le prendre pour pas faire n'importe quoi. C'est une base qui sera pérenne pour la suite. Donc il faut prendre du temps avec les citoyens, avec les collègues journalistes, avec les chercheurs, les doctorants. C'est ce qu'on essaye de faire dans 1538, d'avoir à chaque fois une thématique avec des avis différents et des portes d'entrée différentes. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors être un média qui fait la plateforme entre ce qui se passe entre les activités, entre les citoyens, le politique, c'est aussi, je crois, une des activités que fait La Nuit Magazine. La Nuit Magazine qui est un magazine sur Marseille, mais tu vas pouvoir développer plus que moi, qui est une espèce d'agenda et qui permet de mettre les gens en relation, de faire média, c'est-à-dire d'être un outil de communication au sens originel. Ilès Agouk, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
La Nuit Magazine, déjà, oui, c'est un journal, c'est un magazine qui est axé autour d'un articulé plutôt. Autour d'un agenda des sorties qui existe depuis 2011. Je rejoins beaucoup l'analyse de Justin sur une question, parce que ce qui est intéressant, c'est que les mêmes problématiques se retrouvent à plein de niveaux différents. Nous, on est un média culturel local, et on a un petit peu les mêmes problématiques, notamment sur le fait qu'on a grandi, on a réussi à grandir simplement par collaboration et parce qu'on était sur Internet. On est arrivé au bon moment, c'est-à-dire que c'est un média qui a été fondé autour de 2012. Il y a eu l'émergence d'un certain milieu culturel à Marseille, l'émergence d'un certain milieu alternatif qui s'est rencontré automatiquement par Internet et dont on a pu être le point central un petit peu grâce à cette coopération. Donc je trouve ça assez intéressant que d'un média qui veut être un petit peu des deux bords de la Méditerranée à un média qui veut simplement couvrir l'actualité culturelle marseillaise, on a un petit peu les mêmes problématiques. On est d'accord sur le fait que la publicité, les investisseurs et ces choses-là, c'est un petit peu problématique en termes de liberté d'expression, En revanche, j'ai aussi entendu qu'on avait des problèmes à payer un journal. Aujourd'hui, payer un journal, c'est quelque chose qui n'existe presque plus. Là où on va devoir en passer aussi, c'est par l'éducation aux médias, de devoir parler aux collégiens, de devoir parler aux lycéens, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre ce qu'on propose et ce que les lecteurs attendent de nous, notamment dans les nouvelles générations. Pour eux, se renseigner, c'est consulter Facebook. Alors que Facebook, c'est quelque chose qui peut être d'ailleurs intéressant. Il faut pas cracher sur l'intégralité des réseaux sociaux. Il s'est passé des choses intéressantes grâce aux réseaux sociaux. Je pense au printemps arabe, je pense à d'autres choses qui n'ont plus se passer. On peut plus aujourd'hui censurer l'intégralité de l'information. En revanche, c'est pas un outil d'information de bout en bout, quoi. c'est pas ça.
Et vous, votre site d'information, il est gratuit?
Il est complètement gratuit. On a la chance d'avoir l'agenda le plus lu de la région, ce qui nous permet de le valoriser et de le monétiser en bonne partie, mais ce qui nous met aussi parfois dans des problématiques publicitaires un petit peu compliquées, quoi.
Cette nuit j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais plus de télé, plus personne pour me faire voir les belles images du monde entier. Et comment je fais pour savoir qui c'est qui se fout sur la gueule, combien de clochards qui dorment dans un cercueil, qui c'est qui va m'annoncer que Johnny l'est toujours pas mort et qu'un avion s'est écrasé parce que le pilote allait pas fort. Heureusement que c'est pour de faux, je peux me recoller devant mon écran, j'allume les infos, c'est rassurant, tout va mal. Alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, le monde roupille dans son fauteuil. Alors ça va. J'espère qu'avant la fin de l'année, on se mettra un autre tsunami. C'est beau la solidarité, ça fait plaisir à la poitrine. Et moi, je saurai quoi faire. Mes pieds jaunes, je les donnerai à la boulangère. Elle connaît ceux qui font l'aumône. peur que tout aille mieux, qu'on s'éloigne de la routine, qu'Israël soit amoureux de toute la Palestine. J'ai bien cru que pour de vrai, les dirigeants les plus craignos autorisaient le mariage gay et leur laissaient faire des gosses. J'ai rêvé que les barbus s'étaient rasés les poils et qu'aucune femme ne serait pendue pour une histoire de voile. J'ai cru que Marine Le Pen ouvrait une boucherie halal. Heureusement que la connerie humaine me remonte le moral. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle, alors ça va.
On parle de modèle économique, on a avec nous Nicolas Bérard de L'Âge de Fer. Et L'Âge de Fer, c'est un peu figure d'exception, je crois, parmi les médias alternatifs, parce qu'ils ont un modèle économique qui est assez solide. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Nicolas ?
En fait, nous, on s'est basé clairement sur nos lecteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché de financement autre que celui des lecteurs. On est parti sur un prix très bas à la base. Hein. L'Âge de Fer, ça a été créé il y a plus de 10 ans et je crois que le prix, c'était 50 centimes au numéro. Et le but, c'était que les gens, en fait, en achètent plusieurs, fassent découvrir le journal pour faire une masse de lecteurs suffisante pour non seulement faire vivre le journal, mais aussi qu'il soit lu au maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le but d'un média, que ce soit sur Internet ou un journal, c'est qu'il soit lu au maximum. Donc c'était cette astuce-là qui avait été trouvée par le créateur et qui effectivement nous permet d'avoir une base de lecteurs suffisamment solide, même si ça reste toujours un média indépendant, sans publicité, sans actionnaire extérieur. On est monté en scope, donc le journal appartient à ses salariés, de sorte de vraiment garantir notre indépendance, et parce que c'est aussi quelque chose qu'on doit à nos lecteurs. Et voilà, par rapport à la publicité, je pense que c'est intéressant parce que, à mon avis, si il en est absolument pas question, et ça fait pas débat dans le journal, mais si un jour on mettait une page de publicité dans notre journal, je pense qu'on perdrait un grand nombre de nos lecteurs. Il y a un contrat qui est passé avec eux. Vous achetez le journal. Effectivement, on est pour de la presse payante, ce qui n'empêche pas de la presse gratuite par ailleurs, mais nous, c'est une presse payante. Vous payez notre journal, mais nous, on vous garantit non pas d'être les meilleurs du monde, mais en tout cas de travailler en totale indépendance. Et voilà. Et alors après, pour revenir sur ce contre quoi on peut se battre, tu parlais de la temporalité, etc. C'est vrai qu'on se bat quand même contre des puissances qui ont d'énormes moyens. Et il y a un point qui est important aussi, c'est le vocabulaire, quoi. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que les gens sont tellement habitués, en fait, à entendre. Par exemple, on parle de croissance. Croissance, c'est vrai que dans l'esprit, a priori, c'est bien. Est-ce que c'est bien la croissance ? La question n'est jamais posée. Et puis, il y a des choses plus vicieuses. On parle de sans domicile fixe. C'est des mots qu'on doit essayer de bannir aussi de nos médias, parce qu'ils transmettent des messages qui ne sont pas les nôtres. Et on se fait piéger aussi, quoi. Donc il faut vraiment être hyper vigilant. Un sans-domicile fixe, enfin, c'est un sans-domicile, c'est un clochard, voilà. C'est pas un sans-domicile fixe, il change pas d'appartement tous les jours, quoi.
Par rapport à cette question du vocabulaire, est-ce qu'on peut s'interroger sur la formation des journalistes dont on parlait tout à l'heure ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que les journalistes soient plus professionnels, soient plus capables de discuter entre eux pour pouvoir se contrôler chacun l'un l'autre ?
Journaliste, c'est un métier qui ne nécessite pas d'avoir un diplôme ou un cursus particulier. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça demande au minimum du temps. Pour avoir du temps, eh ben, il faut avoir de l'argent. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, je dis pas un tel peut être journaliste parce qu'il a telle capacité et l'autre ne peut pas. Au contraire, plus il y a de profils différents et plus il y a de visions différentes et plus ça enrichit le débat. Par contre, moi, ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est de dire, voilà, on va lancer un média, chacun a un smartphone, peut faire des petits films et aller sur une manifestation, interroger des gens et les poster sur les réseaux sociaux, c'est des journalistes collaboratifs. Non, c'est des rapporteurs d'images, ou c'est, voilà, c'est pas des journalistes dans le sens, ils pourraient être journalistes si on leur dit, ben voilà, tu travailles de telle heure à telle heure, tu fais tel sujet, tu as deux semaines pour réaliser le sujet, on te paye en conséquence, et donc on attend de voir ce que tu rapportes.
La question ouverte, est-ce que être journaliste, du coup, c'est être salarié ? Est-ce que c'est avoir un cadre professionnel ? On a avec nous Célia, tu es stagiaire à Sans Transition, c'est tes débuts dans le journalisme. Alors pour toi, c'est quoi être journaliste ?
Pour moi, être journaliste, c'est avant tout essayer de comprendre le monde, essayer de le retranscrire de la manière la plus fidèle possible, sans, mais c'est toujours la question de l'objectivité, mais vraiment essayer de le comprendre d'abord et puis après pouvoir essayer de, aussi de le rendre intelligible ou le plus clair possible à nos lecteurs. Voilà, donc notamment notre domaine, c'est l'écologie, le développement durable. On en parle énormément, donc il faut aussi pouvoir avoir un média qui réponde à toutes les questions que les citoyens peuvent avoir sur l'économie, sur l'écologie et l'économie solidaire, dont on parle de plus en plus.
Sans transition, c'est un mensuel qui est diffusé au niveau national, c'est bien ça?
C'est un bimensuel diffusé dans plusieurs régions, donc Bretagne, Occitanie, Provence et toute dernière édition en Rhône-Alpes. Donc le premier numéro vient de paraître. Et donc justement, à cette occasion, on lance une campagne de crowdfunding pour financer le reste de l'aventure en Rhône-Alpes.
Alors avec nous, qui nous a rejoint, on a Christophe André, qui est à Radio Zinzine X. Et Radio Zinzine, comme beaucoup de radios associatives, fonctionne avec des bénévoles qui justement ne sont pas salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cette antenne?
Alors, moi j'interviens sur la radio, l'antenne aixoise. Mais c'est vrai que Radio Zinzine est à 99% bénévole. On n'a que très rarement des salariés. C'est un choix parce que le bénévolat permet aussi de s'émanciper sur les contraintes qui pourraient être imposées par une hiérarchie. D'ailleurs, de façon générale, on discute entre nous de manière régulière par des réunions trimestrielles notamment, et puis par des réunions moins formelles. Et je n'ai jamais rencontré aucune forme de sanction, aucune pression à aucun moment. Sinon, parfois, des questionnements, parfois, des hypothèses de travail. Mais jamais, 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 on est venu me dire, là, tu exagères un peu. Pourtant, je travaille sur des sujets qui ne sont pas évidents à traiter. Et donc, la question bénévole, je la revendique. Alors, j'ai la carte de journaliste parce que ça s'est trouvé comme ça. Mais j'ai un travail, un autre travail qui est rémunérateur. Et le fait d'être bénévole, je le revendique dans mes courriers, dans mes relations au préfet, au procureur. Je dis que je suis bénévole, ça veut dire que ils ne pourront, si jamais les personnes auxquelles je m'attaque avaient envie de me sanctionner économiquement, ils ne pourraient pas, parce que justement, je suis totalement libéré de cette question de la subordination. Je n'ai aucun patron dans le cadre de mon travail.
Alors, qui est en train de nous rejoindre, il y a Nathalie Simon, qui est plusieurs casquettes, à la fois militante d'Acrimed, une association, je ne sais pas quelle est exactement la structure, qui fait de la critique des médias, qui est sur Internet, qui est vraiment en pointe là-dessus, qui est également commissaire à la carte de presse et syndiquée au syndicat national des journalistes CGT. Alors qu'est-ce que tu penses du coup de l'attribution de la carte de presse? Est-ce que la carte de presse fait de celui qui l'a un journaliste?
Déjà, monsieur, je vais vous demander quelle est votre profession.
Je suis pilote de projet immobilier.
D'accord.
Et expert en bâtiment.
D'accord. Imaginons que des bénévoles fassent du pilotage de je ne sais pas quoi. Vous seriez content? Pas payé. Il fait votre boulot, pas payé.
Beaucoup le font pour eux-mêmes. Beaucoup le font pour eux-mêmes. Et je comprends très bien aussi la question de la rémunération. Où on va peut-être voir plus large de la valorisation.
Je vous arrête. Hein, mais pour moi, un travail, c'est un travail salarié. En fait, moi, je connais plein de journalistes qui cherchent à faire bien leur travail, qui ont fait des stages à France 2, à Radio France, au Monde, à tout ce que vous voulez, et qui en sont partis, qui voulaient faire un travail où ils étaient plus libres. Ces journalistes se battent tous les jours pour pouvoir faire leur travail correctement, mais ce sont des professionnels, ils en vivent. Donc là, enfin, excusez-moi, mais pour moi, le bénévolat, c'est comme un prof. Admettons, moi je suis secrétaire de rédaction. Je maîtrise la langue française que j'adore. Eh ben, je vais filer des cours gratos aux élèves, voilà, comme ça, pour aider les élèves. Enfin, moi, il y a quelque chose quand même qui me gêne beaucoup dans ce que vous dites là.
Après, il faut quand même faire la différence entre les médias associatifs qui malheureusement ont peu de moyens et qui ont une autre logique, comme je disais, de donner la parole, d'être un un pont entre les citoyens et, on va dire, les autres citoyens, de pouvoir se parler, et les médias plus classiques, qui, là où c'est vraiment pas possible que les journalistes ne soient pas payés.
C'est ce que je fais, c'est ce que je fais moi à l'heure actuelle. On est un média associatif à la Nuit Magazine, et toutes les personnes qui y travaillent sont salariées.
Je me suis mis dans cette affaire parce que ça fait 30 ans. 30 ans que dans mon métier, je constate des choses qui ne sont pas relayées ou pas assez relayées dans la sphère publique. Parce que ce sont des questions qui sont très techniques, très complexes. Et donc j'amène, moi, mon expertise, ma connaissance, pour décrypter. En revanche, je participe à la radio, mais je le redonne à tous mes amis journalistes pour qu'eux-mêmes fassent un papier sur ce sujet. De telle sorte, mais j'ai fait tout un travail d'analyse et de décryptage technique, juridique, de situations extrêmement complexes. Et j'ai tout mon temps, du coup. Je veux bien comprendre que ça puisse poser un problème. Néanmoins, le fait de ne... je constate, et si je m'y suis mis, si aujourd'hui je donne de mon temps personnel pour ça, c'est parce que c'est des sujets qui ne sont pas assez traités ou maltraités. Maltraités à tous les sens du terme, hein, puisque c'est un motif de maltraitance. Et donc, je veux bien comprendre qu'à terme, cela puisse poser un problème de salaire. Néanmoins, je m'inscris dans Radio Zinzine, dans une alternative aussi au salariat. Hein. On n'est pas du tout dans ces logiques. Donc la question de la subordination, qui est un lien immédiat, enfin une des contraintes immédiates du contrat de travail, eh bien la notion même, moi, de subordination, je ne l'entends pas. Voilà. Voilà.
Alors, on parle de difficultés économiques et ce plateau ne cesse de se remplir. Alors, nous avons Julien Camille, c'est ça, c'est bien Camille, qui est avec nous, qui est journaliste ancien du Patriote, qui était un hebdomadaire, et de Ressources, qui était un mensuel. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'était ces deux journaux? Et il me semble que les deux journaux ne fonctionnent plus très bien et que tu as dû partir de là-bas.
C'est pas qu'ils fonctionnent plus, c'est qu'ils ont été arrêtés. Donc, je me demande si je suis pas un peu le chat noir, en fait, parce que du coup... Ça va permettre de rebondir sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est que moi on me présente comme journaliste, mais j'ai plus la carte, puisque évidemment, comme j'ai perdu mon emploi de journaliste salarié au Patriote, qui me donnait plus de 50% de mes revenus, qui me permettait d'avoir ma carte de journaliste professionnel, je l'ai gardée pendant 2 ans parce que on peut garder quand on est au chômage pendant 2 ans une carte encore en attendant qu'on trouve quelque chose. J'ai pas retrouvé, donc du coup j'ai plus ma carte, ce qui est normal puisque c'est le journalisme, l'activité journalistique ne représente pas mes revenus principaux. J'ai dû me tourner vers autre chose, du coup. Mais du coup, est-ce que je suis toujours journaliste? C'est toujours une question que je me pose et que voilà, parce que moi je pense que journaliste c'est pas uniquement avoir une carte, c'est aussi une forme d'intégrité, de responsabilité par rapport à l'information qu'on diffuse. Après, quand moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que si c'est pas plus de 50% de cette règle-là, moi je la trouve assez juste. Mais après, c'est pas une la question des revenus n'est pas normalement. C'est pas, faut pas que ça soit uniquement ça sur laquelle on juge est-ce qu'on fait un travail journalistique ou pas. Voilà. C'est juste là-dessus. Après, c'est la question de la carte. Je suis un peu étonné que vous ayez la carte en étant bénévole à Radio Zinzine. C'est juste là-dessus. Après, sur le travail journalistique, c'est autre chose. Sur le travail journalistique, c'est autre chose. C'est juste sur la question de la carte que ça m'étonne. Mais après.
Alors,
voilà, soit.
Concernant la commission de la carte de presse, donc la commission de la carte de presse, c'est une instance indépendante créée par M. Brachard, un journaliste, 1936, pour encadrer à l'époque. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein, dans les années 20, les journalistes du monde occidental se sont plaints à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail. De ne pas, c'était le moment où les travailleurs s'organisaient manuels et les travailleurs intellectuels se sont dit bah nous aussi il faut qu'on s'organise. Et donc parmi eux, les journalistes ont recouru à l'OIT pour démêler un petit peu comment encadrer leur profession, comment se protéger et comment avoir un minimum d'indépendance. En France, ça a donné les conventions collectives du journalisme. Ça a donné l'encadrement juridique et syndical du journaliste. C'est le seul pays où il y a une protection telle de ce métier. Et la commission de la carte de presse qui donc attribue ou non la carte de presse. Notre travail là, c'est de lutter contre l'auto-entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous ne dépendez plus du code du travail. Vous relevez du code du commerce. Donc, vous n'avez plus de protection par rapport à votre patron, parce que les auto-entrepreneurs, la plupart, voilà, la Commission européenne appelle les travailleurs indépendants des travailleurs indépendants économiquement dépendants. Ça veut tout dire. Nous, notre boulot, c'est pas de dire celui-là, c'est un bon journaliste, celui-là, c'est un mauvais journaliste. C'est pas ça. Nous, notre boulot, c'est de voir que cette personne-là, elle en vit, donc cette personne-là, elle est journaliste. Nous, notre boulot, c'est de voir que, ah non, ce site-là, il vend des trucs, là. C'est pas du journalisme, ça. Ou notre boulot, c'est aussi de voir, ah non, ça, c'est de la communication. C'est pas du journalisme. C'est ça, notre boulot. Est-ce que la carte de presse égale le journalisme ? Non. Moi, personnellement, je connais des gens qui ont leur carte de presse et qui ne sont absolument pas journalistes, hélas. Qui n'ont même qu'une vague idée de ce qu'est le journalisme. A contrario, je connais aussi des journalistes qui ont perdu leur carte ou qui n'ont toujours pas réussi à l'avoir. C'est pas de la faute de la commission de la carte, c'est la faute des patrons de presse qui ne veulent pas payer.
Julien, toi, tu as pas eu ta carte, tu étais pigiste avant, donc ça veut dire que tu n'étais pas employé à plein temps avec eux, avec Patriote et Ressources Montaigne.
Si, moi, à Patriote, j'étais rédacteur en chef, donc j'étais salarié à l'année pendant 8 ans dans le journal. Après, pour Ressources, donc le Patriote, c'est un journal qui s'est arrêté en 2013, et après, en 2015-2016, il y a Ressources qui est un bimensuel, ou mensuel, parce qu'ils ont changé plusieurs fois de formule, parce qu'ils n'y arrivaient pas à trouver... un équilibre financier suivant la bonne formule autour de, donc c'est un journal autour du développement durable sur le territoire azuréen et un peu varois. Ils n'ont pas réussi à décoller, ils n'ont pas réussi à trouver un lectorat suffisant pour avoir assez de finances pour payer les journalistes. Dès le début du projet, Stéphane Robinson, le directeur de publication, voulait faire un journal en payant les journalistes. Pour lui, c'était une forme d'intégrité aussi par rapport au message que son média voulait défendre. C'est-à-dire que c'était un média citoyen, enfin, qui voulait donner la parole aux citoyens, qui voulait parler du développement durable, et du développement durable au sens large au terme, c'est-à-dire même du travail social au sein des entreprises, qui fait aussi partie de cette réflexion-là. Et donc, il voulait réussir à payer ses journalistes, ses photographes. Il l'a fait par intermittence, en recourant parfois à des notes d'honoraires ou à de l'auto-entrepreneuriat. Parce que sinon, le journal ne sortait pas. Il a fait 2-3 numéros comme ça. Et puis après, il a dit stop, on arrête quoi. Parce que c'est pas du tout ma mentalité aussi de travailler ainsi. Après, nous, juste sur les Alpes-Maritimes, on est un département qui est quand même beaucoup plus sclérosé et difficile au point de vue des médias. C'est-à-dire que nous, on a Nice Matin. Et en gros, on n'a pas grand-chose d'autre. On a La Strada, qui est un mensuel culturel gratuit. Qui fait surtout de la promotion de concerts, etc. On a Le Patriote qui a été repris après par le Parti communiste qui continue. Là, c'est devenu une petite feuille de chou dans un coin. Mais du coup, on n'a rien d'autre. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis tourné vers autre chose puisque j'avais pas d'autre solution et j'avais aucune envie d'aller travailler à Nice Matin. Ayant travaillé au Patriote, ayant défendu certaines valeurs, je me voyais pas aller faire Les Chiens écrasés ou l'anniversaire des 50 ans de la mamie à Nice Matin, quoi. Parce que c'est ça. Après, ce que je veux dire, c'est que moi, je me sentais pas de faire ça, mais en même temps, c'est aussi important qu'il y ait des journaux qui le font. Parce que ça fait partie aussi du lien social à travers la ville, à travers la cité, et qu'il faut aussi défendre ces journalistes-là qui font ça, ça leur fait plaisir. Voilà, il y en a qui aiment bien faire ce genre de là. À Marseille et ici, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de médias, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Et c'est vrai qu'on disait qu'on a l'impression que le journalisme est de plus en plus dur maintenant, mais alors moi, en écoutant, en voyant tous ces médias qui existent, alternatifs et citoyens, je me demande est-ce qu'il n'y a pas jamais eu autant de médias au final, et de gens qui cherchent à faire des médias, parce qu'avant, il y a 50 ans, il n'y en avait pas tant que ça des médias, il y avait des gros journaux, beaucoup plus de gros journaux, qui employaient plus de journalistes, qui salariaient beaucoup plus de journalistes, mais en même temps, il y avait peut-être moins de pluralité de la presse comme on peut en avoir maintenant. Après, le problème, c'est qu'il faut réussir à amener des lecteurs sur ces journaux-là, et est-ce que les lecteurs sont intéressés par ce que l'on fait, voilà. C'est ça aussi la difficulté, c'est de trouver un juste équilibre.
C'est la grande question. Et Jean-Marie, toi qui veux créer un nouveau média, est-ce que vous voulez recruter tous ceux qui veulent devenir journalistes pour qu'ils aient enfin un salaire?
Ce dont on est en train de parler, c'est un vrai débat sur la question de la profession, notre profession de journaliste, hein, qui est en danger. Bon, par exemple, ici, on a une carte de presse en France, mais un pays comme les États-Unis, il n'y a pas de carte de presse, ils font très bien leur boulot. Maintenant, il faut s'adapter au cadre dans lequel on est, qui est un cadre où il y aurait des choses à revoir. Hein. D'abord, il y a une centralisation des médias qui payent les journalistes, qui ont les moyens de payer les journalistes, qui sont aux mains d'une poignée. Et la question même d'obtenir sa carte, est-ce que c'est vraiment le débat ? Parce que, bon, si on prend par exemple la presse spécialisée, je sais pas moi, dans l'informatique ou dans la pêche, ce sont des médias qui fonctionnent exclusivement par rapport aux fabricants d'ordinateurs ou bien de matériel de pêche. Les journalistes qui travaillent dans ces médias-là ont leur carte de presse. Donc la question, elle est large. Et je crois, ce que disait Julien tout à l'heure, ce qui est important, c'est la question de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette profession. Et dans un cadre qui est un cadre de démocratie et pas dans un cadre du commerce. Parce que c'est quoi la fonction d'un journaliste si ce n'est être une courroie de transmission, enfin un filtre entre le pouvoir en général et le peuple. Et la fonction démocratique du journaliste, aujourd'hui, elle est complètement menacée. Alors après, s'ouvre ce débat avec justement le développement du numérique. Des gens, par exemple, qui travaillent sur des géants comme Orange, qui produisent de l'information à la chaîne, qui est faite pour faire du clic, est-ce qu'on va leur donner la carte du journaliste ? Ça, c'est une question qui se pose. Autre question qui peut se poser vis-à-vis de l'émergence de tous ces mouvements citoyens qui font de l'information, est-ce que ce sont pour autant des journalistes ? Est-ce qu'ils ont la formation pour le faire ? Ça aussi, ça pose question. Dans notre projet, nous, on reconsidère notre métier parce qu'on ne peut pas non plus rester sur notre piédestal journalistique et se dire, nous, on est journalistes, le type qui fait son blog, c'est un amateur. C'est pas ça non plus. Il faut qu'on descende sur le terrain, qu'on se confronte à ça. Et quand on rencontre des gens qui ont eu de l'information à faire passer, travailler avec eux, être ensemble.
Merci beaucoup. On aimerait bien continuer ce débat plus longuement. On a encore plein de choses à se dire, mais je suis désolé, on va arrêter l'enregistrement ici. Je sais pas comment ça se passe avec... avec la technique, mais on m'a dit qu'il faut que je coupe. Alors on peut continuer le débat, je sais pas s'il y a autre chose après, peut-être qu'on peut continuer sans enregistrer. Ouais ? Non ? Non plus ? Bon, et eh ben, Monsieur Thomas Guénolé arrive, alors on va devoir s'en aller. Mais on peut se mettre dans un coin si vous voulez, pour se rassembler et continuer la discussion avec grand plaisir. Alors merci à tous d'avoir été ici, c'était vraiment chouette. Merci au public, désolé de ne pas avoir pu vous faire participer, ça aurait été avec plaisir, on n'a pas eu le temps, mais vraiment je vous invite à venir continuer la discussion tout de suite là. On va saluer nos auditeurs sur toutes nos radios, il m'en manque une, mais bon tant pis, je les salue quand même. Alors on a Radio Alpine Meilleur à Embrun, on a Fréquence Paris Pluriel, Radio Béton à Tours, Radio Galère à Marseille, Radio Zinzine dans le coin, MNE à Mulhouse, La Clé des Ondes à Bordeaux, Nebia Campus Corté en Corse et Radio Campus Grenoble, et je ne me rappelle pas de la dernière. Alors on se retrouve le mois prochain, non ce sera l'été, on ne se retrouve pas le mois prochain, on se retrouve en septembre du coup parce que cette émission sera diffusée en juillet. On se retrouve en septembre donc pour une nouvelle émission de Presse Libérée, l'émission des médias alternatifs indépendants, pas pareil, on lâche rien et vive la presse alternative.
Ce sera tout à fait comme à la radio, ce ne sera rien. Rien que de la musique, ça ne sera rien, rien que des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. De juste un peu de bruit et rien de plus. De juste.
un peu de bruit, n'ayez pas peur.